Chers amis, soyez les bienvenus à l'Institut culturel Quetzalcoatl. Nous allons commencer avec un thème fondamental pour cet étude gnostique. Nous sommes dans son école gnostique. La gnose, c'est les connaissances antérieures, une connaissance que chacun de nous possède lui-même, dans le plus profond de son être, mais qu'il y a oublié ou s'est éloigné de ses souhaits principaux de revenir à la vérité. Nous sommes donc ici pour vous donner les techniques et les procédés qui vont nous permettre, à tous, de retrouver ces chemins. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet très intéressant qui s'intitule « Le réveil, l'éveil de la conscience ». Avant tout, chers amis, il est important que nous définissions ce qu'est la conscience pour nous autres, les étudiants gnostiques, parce que, d'un côté, nous avons la conscience telle que nous la comprenons dans les écoles de psychologie, à l'université, dans les écoles de philosophie, ainsi que dans d'autres branches existantes. Et de notre côté, la conscience, comme nous la définissons ici dans ces enseignements gnostiques. La conscience, pour nous, c'est l'ensemble des valeurs que l'être humain devrait avoir incarnées, c'est une capacité d'appréhension intérieure. À travers la conscience, nous pourrions nous auto-connaître, connaître cette connaissance divine intérieure que nous avons tous en dedans de nous-mêmes. La conscience, c'est un ensemble de valeurs comme l'amour, la sagesse. La conscience, c'est un ensemble de vertus, de dons, de lois, de pouvoirs que l'être humain, tous, devront posséder de façon naturelle en lui. Voilà ce qu'est la conscience pour nous dans la gnose. Mais si nous y réfléchissons bien, nous pouvons voir que nous n'avons pas beaucoup de conscience en fait du point de vue gnostique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, il n'y a pas beaucoup de fraternité, il n'y a pas beaucoup de sincérité, il n'y a pas beaucoup de compréhension dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Nous avons perdu toutes ces valeurs. Donc, pour nous, la conscience est l'ensemble des valeurs, des dons, des lois, des pouvoirs qui font que l'être humain est intégré, uni total, complète réellement. De nos jours, nous avons très peu de conscience éveillée. La conscience est très différente de l'intellect. Vraiment, vraiment très différente. Elle est aussi différente que les phares d'une voiture avec la chaussure qui s'éclairait. Réellement, l'intellect est un instrument que nous possédons, qui nous est très utile, c'est vrai, mais il n'a pas la conscience. L'intellect nous est utile pour apprendre tout ce que nous apprenons à l'école. Mais il n'a rien à voir avec la conscience intérieure. Disons que l'intellect nous sert à connaître tout ce qui est en rapport avec l'extérieur, le monde physique, tandis que la conscience a la faculté de l'attention intérieure, de cet univers intérieur qui est en nous et qui nous ignorons complètement aujourd'hui. Nous devons comprendre que cette conscience est endormie, que nous n'avons pas de conscience éveillée. Nous n'avons seulement que 3% de cette conscience libre, c'est-à-dire 3% des valeurs de certaines personnes. Certaines personnes n'ont plus que 2%, et quelquefois, mes chers amis, certains n'ont que 1% de conscience libre en eux. Celui qui ne possède même pas 1% de conscience libre en lui agit de façon très animale. Par exemple, il abandonne ses enfants dans une poubelle. Il se drogue et ne pense pas aux autres. Il s'alcoolise ou il écrase une personne sans que cesse ne lui fasse rien. Il exploite les autres sans que la douleur de personne ne lui importe. Nous sommes nombreux à n'avoir que 1% de conscience éveillée. Quelques-uns ont 2%, mais le normal serait de n'avoir 3%. 3% des valeurs, 3% des consciences, des vertus, des facultés dans l'être humain. Malheureusement, les 97 des consciences, de ces valeurs, de ces vertus se trouvent emprisonnées dans les différents types de défauts psychologiques que nous possédons. Lamentablement, mes chers amis, nous avons 97% d'erreurs et des défauts psychologiques comme l'orgueil qui maintient l'humilité prisonnière, comme la cupidité qui maintient l'équilibre des affaires économiques par ce désir d'accumulation, la cupidité, ou comme la luxure qui impressionne la chasteté, comme l'haine qui impressionne l'amour. Et c'est ainsi que chaque défaut psychologique que nous possédons, chaque pécheur, et nous avons des milliers, ils forment ce que dans l'Apocalypse de Saint Jean est nommé comme légion. Cette légion vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils sont des milliards de défauts psychologiques qui sont de notre nature intérieure. Chacun d'entre nous pensons que nous sommes un peu envieux, un peu téméraires, et qu'en réalité, cela veut de la peine de ressentir un peu d'envie envers les autres ou d'être un peu cupide pour pouvoir travailler et d'avoir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Finalement, nous pensons toujours que nous sommes de très belles personnes. Une douce brebis, n'est-ce pas? Voilà ce que nous pensons de nous-mêmes. Mais si l'on pouvait découvrir notre véritable nature, si on pouvait se voir tel que l'on est vraiment, sans un miroir psychologique, franchement, on pourrait voir que la cause de notre misère, de nos problèmes, de nos difficultés, vit dans notre intérieur. Nous avons donc 97% d'ego. Dans l'agnos, nous appelons ego les différents défauts psychologiques, les milliards d'agrégats psychologiques que nous possédons intérieurement. Nous en avons 10 000, plus ou moins. Peut-être que nous qui sommes ici présentes dans cette conférence, nous pensions que nous n'avons que 5 ou 6 défauts psychologiques en total. Mais en réalité, nous avons une légion de défauts psychologiques, des milliards. Et nous ne sommes pas du tout en train d'exagérer. Des milliards de défauts psychologiques qui font de notre vie cette prison de douleur dans laquelle nous sommes actuellement. Nous n'avons donc que 3% de conscience, et ces 3% de conscience libre que nous avons font que nous sommes des êtres humains si nous les utilisons. Parce que s'il est vrai que nous avons 3% de conscience, de valeur, en tant qu'être humain, nous sommes beaucoup à ne pas les utiliser. Nous restons dans les 97% de défauts. Voilà l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous ne voulons pas du tout d'être défaitistes ou pessimistes. Nous voulons seulement essayer de poser des bases solides pour pouvoir obtenir un changement. Lorsque l'on se considère très importante, lorsque l'on pense être sublime, alors le changement à notre intérieur n'est pas possible. Et pourquoi ce changement n'est-il pas possible? Eh bien, parce que l'on pense déjà que l'on est très bien, que l'on fait son maximum. C'est la triste réalité. Nous pensons de nous-mêmes que nous sommes un bon homme, une bonne femme, un bon mari, une bonne épouse, un bon fils, une bonne fille, un bon étudiant, un bon citoyen. Nous pensons déjà tout cela de nous-mêmes. Alors, le changement intérieur, nous ne le considérons pas nécessaire. Et ce changement intérieur devient impossible. Il faut donc que nous nous rendions compte que nous vivons dans les rêves de la conscience, que ces valeurs, que ces vertus, que ces pouvoirs et ces dons qui devraient être des fonctions naturelles dans l'être humain sont endormis, sont dans un sommeil profond. Il est nécessaire que nous comprenions et que nous acceptions que nous sommes endormis et que nous vivons dans un rêve, que notre vie n'est qu'en réalité qu'un rêve, et que nous devons sortir de ces rêves, chers amis. C'est ce que nous devons faire. Prenons un exemple. Les malades qui se trouvent dans un hôpital psychiatrique, ils pourraient sortir de là s'ils acceptaient leur maladie mentale. La majorité des malades psychiatriques se disent en bonne santé, et ne reconnaissent pas leur maladie. Ils pensent et disent qu'ils vont très bien, qu'ils agissent correctement, et que ce qu'ils voient dans leur imagination sont des choses très réelles, etc., etc. C'est non seulement lorsqu'ils acceptent qu'ils sont un problème, qu'ils sont en voie de récupérer, qu'ils peuvent sortir de cet hôpital psychiatrique. De même, nous disons que nous pourrons nous éveiller de ces rêves de la conscience seulement, si nous nous rendons compte que nous sommes endormis actuellement. Lorsque l'on perçoit réellement de façon directe que l'on est endormi et que l'on vit dans un monde de rêves, alors nous avons la capacité d'éveiller. Oui, c'est comme lorsque nous étions enfants. Nous rêvions d'aller à l'école. Et puis, adolescents, nous rêvions d'aller au lycée. Ensuite, en tant que jeune adulte, nous rêvions d'aller à l'université. Ensuite, en tant qu'adulte, nous rêvons d'avoir une belle voiture, une jolie maison. On veut se marier et d'avoir des enfants, etc. On n'arrête pas de rêver à tout cela. Et lorsque nous nous marions, nous continuons à rêver. On imagine en rêvant que nos enfants grandissent bien, qu'ils étudient bien à l'école, qu'ils auront ensuite des diplômes, des prix, et qu'ils seront heureux. Nous n'arrêtons pas de rêver, et nous ne profitons pas de chaque moment, de chaque instant de la vie. Nous rêvons tout le temps. Nous rêvons toujours au futur et pensons tout rêve du passé. Et nous ne vivons pas au présent. Nous ne vivons pas chaque instant de notre vie. Nous vivons dans notre vie des rêves. Nous vivons dans les rêves. Les soldats rêvent d'être général. L'employé rêve de devenir gérant ou d'avoir un poste plus important dans l'entreprise. Ou rêve d'avoir une affaire à lui. C'est lui qui possède une entreprise. Rêve qu'elle devienne complètement autonome et importante pour lui permettre de bien profiter de la vie. Les célibataires rêvent de se marier. Nous sommes toujours en train de rêver avec une conscience endormie. Nous vivons endormis, nous marchons dans la rue en rêvant, en étant endormis. Quelquefois, nous prenons l'autobus pour aller quelque part, et comme l'on est en train de rêver, même en ayant les yeux ouverts, daydreaming, on l'appelle en anglais, mais en ayant la conscience endormie. On doit par exemple aller au centre-ville, dans l'autobus, ou chez nous, et on rate l'arrêt où l'on devait descendre. Pardon. On est obligé de revenir sur ce pas, parce qu'on était en train de rêver en regardant par la fenêtre de l'autobus. Une autre fois, on va dans un magasin pour faire des courses, et arrive dans le magasin et oublie ce que l'on devait acheter. C'est parce que notre conscience est endormie et nous pensions à nos problèmes, à ce que nous avons vécu hier ou à ce que nous allons faire demain. Nous pensions à tout cela, sauf à ce que nous devions acheter. Nous revenons des courses et nous ne trouvons pas le sucre. Et finalement, nous le retrouvons dans les frigidaires où nous ne retrouvons pas nos clés. Il nous arrive aussi de monter dans un autobus en ayant oublié la monnaie pour payer l'étiquette où nous ne nous souvenons plus où nous avons mis la parapluie car il se met à pleuvoir. Nous vivons tous en fait dans un sommeil très profond et de nos jours, avec la technologie, avec les moyens de communication si sophistiqués, avec nos téléphones portables, avec Internet, la télévision, le cinéma, tout cela a fait que nous nous trouvons dans un sommeil encore plus profond. Nous sommes devenus de véritables automates, de véritables zombies dans la rue. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes hypnotisés. Nous nous trouvons dans un sommeil très profond de la conscience. Cela vaut donc la peine que l'on découvre, que l'on se rende compte, que l'on est vraiment endormi. Et lorsqu'on s'en rend compte, on arrête de faire des choses bizarres. On pourrait prendre, par exemple, un boxeur qui est en train de frapper un autre boxeur pour divertir la foule. Si à ce moment-là, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, boxer notre personne en les blessant, en les faisant saigner, et c'est là pour divertir les gens. Alors, il s'arrêterait net. Il s'éloignerait de là. Si sa conscience s'éveillait à ce moment-là, alors, en ce même instant, il sortirait du ring et partirait. Un autre exemple. Si une personne fait du mal à un animal pour divertir les gens comme dans son corrida, et en la laissant et en la torturant, et ceci pour divertir un public, si à cet instant ce torero éveillé de sa conscience, il fuira très vite cet endroit. Par la peine, par la honte. Ce sont des exemples dramatiques pour que vous vous rendiez compte de ces sommets de la conscience. Mais nous agissons aussi, dans certains cas, en ayant la conscience endormie. Nous blessons nos enfants en pensant que nous faisons bien. Bien sûr, il faut agir avec douceur et sévérité avec nos enfants. Douceur lorsque nous devons agir avec douceur et sévérité lorsque nous devons agir avec sévérité. Personne ne le nie. Mais l'élever physiquement ou psychologiquement à subir notre frustration et les frappantes et en pensant qu'on fait bien, si on éveillait sa conscience à ce moment-là, on se rendra compte de notre cruauté, de notre méchanceté si terrible, et nous sommes tous ainsi. Vraiment, lorsque l'on pense que l'on est quelqu'un de bien, on ne peut pas changer. C'est pour cette raison que cela vaut la peine de s'éveiller. Pour cela, il faut tout d'abord prendre conscience que l'on est aujourd'hui endormi, que l'on rêve, que l'on vit dans un sommeil profond. Voilà la première chose dont nous avons besoin. Il existe trois étapes qui nous mènent à l'endormissement de la conscience. Premièrement, l'identification avec les choses du monde extérieur. Voilà la première étape. Identification, c'est-à-dire que nous nous identifions avec un objet, avec une personne, avec un fait, avec une situation. Ensuite vient la fascination. Nous sommes fascinés par ce fait, par cette situation, par cette personne, par cet objet. Nous tombons dans les sommets de la conscience. Par exemple, nous nous promenons dans la rue ou centre-ville. Il y a beaucoup de magasins, des vitrines. Nous y voyons des choses très jolies, des appareils électroniques très modernes, des télévisions, des vêtements, des coutumes, de tellement de choses. Nous voyons soudain un bon coutume si nous sommes un homme ou une très belle robe si nous sommes une femme. Oh, que c'est beau! Ou quelle est jolie cette belle robe! Quelle belle couleur! Cela nous plaît vraiment beaucoup. Nous voilà identifiés avec cet objet que nous observons et qui nous plaît beaucoup. Nous sommes donc dans cette phase de fascination, d'accord? Ensuite vient cette phase d'identification. Nous avons oublié tout et nous sommes complètement identifiés avec cet objet en particulier. Et ensuite vient la fascination. Que c'est beau, que j'y aura de l'argent, j'y viens m'acheter. Dans ce que j'ai mon salarié, j'y viendrai me l'acheter. Nous pensons, nous imaginons, nous sommes fascinés. Cette coutume est vraiment parfaite, ou cette robe est vraiment très jolie. Cela me plaît beaucoup. Les couleurs sont très belles, la texture du tissu me plaît beaucoup. Nous voilà donc dans la phase de fascination. Nous sommes déjà en train de rêver avec cet objet. Puis, nous reprenons notre marche dans la roue. Et nous nous imaginons avec cette coutume ou avec cette belle robe. Nous pensons à la cravate qui irait avec ou pour une femme. Et cette belle robe serait parfaite pour être portée à une fête où tout le monde les remarquerait et dirait « Oh, comme cette robe est jolie et elle te va très bien. Tu es ravissante avec. » Et nous sommes en train de rêver tout cela pendant que nous marchions dans la rue. Et nous voilà en train d'imaginer toutes ces choses en rapport avec cet objet que l'on avoue, je le répète, dans la vitrine. Nous nous trouvons alors dans le sommeil de la conscience et peut-être qu'à ce moment-là, nous croyons un ami ou en colère et nous ne les voyons pas parce que nous sommes en plein rêve. Notre conscience est complètement endormie. Cet ami ou cette colère pense que l'on est flashé avec lui. Pas du tout. Nous sommes complètement dans notre rêve, complètement endormis. Et c'est comme cela que de nombreuses choses nous mènent à l'endormissement de la conscience. C'est pour cette raison qu'il y a tellement d'accidents. On marche en rêvant à de nombreuses choses. Notre conscience est endormie. Arrive une voiture conduite par une personne qui a aussi la conscience endormie, qui rêve aussi, un piéton endormi, un chauffeur endormi, et c'est l'accident. Voilà comment arrivent la plupart des accidents. Beaucoup d'accidents sont dus à l'endormissement de la conscience. De nombreux accidents seraient évités si nous avions une conscience éveillée, si nous vivions en conscience. Lamentablement, il existait beaucoup de choses qui nous mènent au sommeil de la conscience. Nous voyons un commercial dans un coin d'un magasin ou dans la rue qui vante les propriétés d'une crème, d'un shampoing, d'une pommade. Nous nous souvenons de cette publicité vue à la télévision, nous nous identifions, nous nous fascinons et ensuite nous entrons dans le sommeil de la conscience. Nous pensons à ce shampoing qui ira très bien à nos cheveux et nous allons endormir aussi bien à pied, qu'à bicyclette, qu'à voiture, qu'à autobus, mais nous allons rêver à de belles choses dans ce sommeil profond de la conscience engageante des grandes quantités d'énergie psychique et d'énergie émotionnelle. Durant toute une journée, dans combien de rêves nous égarons-nous? Des milliards de rêves. Lorsque nous arrivons à la maison, après toutes les angoisses de la journée, le travail est terminé, les études sont terminées, les activités ont cessé, et on est très fatigué. On est complètement vidé de nos énergies, on est complètement épuisé. Pourquoi? Parce que tous ces rêves ont volé toutes nos énergies, toute notre vitalité. Nous n'avons pas besoin de vitamines dans la vie, mais de ces énergies que nous avons déjà à l'intérieur de nous, et que nous rageons à cause de tous ces rêves de la conscience dans lesquels nous vivons. Voilà l'état dans lequel nous nous trouvons tous. C'est la triste réalité. Il ne faut pas dire « Oh oui, je suis endormi parce que l'art non l'est dit ». Non, cela ne veut rien. Cela ne sert à rien. Ce n'est qu'une forme d'acceptation. Ce qu'il faut, c'est découvrir dans les faits mêmes ce sommeil de la conscience. Nous rendons compte que nous marchons dans la rue avec une conscience endormie, comme des automates, comme si nous appuyions sur un bouton automatique pour pouvoir marcher et que notre corps se mette à marcher automatiquement, ou comme lorsque l'on se nourrit, on appuie sur un bouton et on se mettait à manger en ayant les regards perdus dans le sommeil, comme des hypnotiseurs. Voilà l'état dans lequel nous sommes, chers amis. Nous sommes. Nous devons faire un effort pour nous rappeler de ces moments et devenir conscients de ces moments lorsque nous tombons dans ces exemples. De même, dans les études, que ce soit dans les petites classes ou à l'université, en étant étudiante, on se perd dans ses pensées en regardant peut-être un point sur le mur. Et voilà, nous sommes dans le sommeil de la conscience et le professeur Mbeng essayera d'expliquer et d'expliquer la matière, mais on est en train de rêver. Et il se passe la même chose avec ces conférences. Tant qu'un instructeur, on fait notre possible pour qu'un sujet soit compris. Et lorsque la conférence est terminée, on nous pose des questions sur des choses que l'on a expliquées dans les conférences. Et pourquoi posons-nous une question sur quelque chose qui a déjà été expliqué dans la conférence même? Eh bien, parce qu'on était alors en train de rêver. On était plus là. Dans la classe. Nous n'étions plus en train d'écouter. Nous avions fait cette conférence pour d'autres lieux. Nous nous sommes échappés et nous nous sommes retirés de notre pays psychologique, dans notre univers intérieur, dans le passé ou dans le futur, pendant que la conférence se déroule. C'est pour cela que nous ne savons pas écouter, à cause de l'endormissement de notre conscience dans lequel nous nous trouvons. Cela veut dire, mes amis, que si on éveillait notre conscience, eh bien, les études seraient beaucoup plus faciles. Les études à l'école seraient beaucoup plus faciles. Elles ne seraient pas aussi compliquées. Mais lorsque l'on assiste à la classe, si on est absente, on ne peut pas écouter. Lorsque l'on étudie, nous avons notre téléphone portable à côté de nous, et nous écoutons en même temps de la musique. Nous sommes dans beaucoup d'endroits en même temps. Nous ne sommes pas concentrés, nous ne sommes pas attentifs à nos études, et c'est pour cette raison qu'elles nous semblent si difficiles. Les études ne sont pas difficiles. Elles sont pour nous si nous allons de rêve en rêve. Pourquoi il y a-t-il autant d'accidents dans les usines? Parce que nous vivons endormis. Nous travaillons comme des automates en mettant une pièce automatiquement dans une machine dangereuse. Nous sommes endormis et nous perdons un doigt ou un membre entier. Nous avons un accident de travail. Nous pourrions éviter cela si nous vivions en conscience. Bien sûr, il y a des accidents parce qu'une machine n'a pas fonctionné correctement, par exemple. Oui, bien sûr, mais la majorité des accidents sont dus au sommeil de la conscience. On vivrait bien plus heureux, on serait plus enterré, on ferait notre travail plus correctement, on étudiera bien plus facilement, on aurait plus d'énergie si on éveillait notre conscience. Mais nous vivons endormis, et la première chose que nous devons faire pour nous éveiller, c'est de nous rendre compte que nous sommes endormis. C'est pour cela que nous venons d'expliquer ces situations. C'est pour cette juste raison, chers amis, que dans le bouddhisme, on dit que l'on vit dans un monde d'illusions, le monde des mayas. Voilà ce que l'on dit dans le monde oriental. Nous vivons dans le monde des mayas. Le terme maya, pour les bouddhistes, est différent de la culture maya. C'est complètement différent. Maya, dans le bouddhisme, se traduit par illusion, car pour les bouddhistes, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde illusoire, d'illusion, des rêves. Les bouddhistes ont raison de dire cela, car nous vivons effectivement dans un rêve. C'est une terrible réalité. Nous vivons dans une multiplicité de rêves. Nous sommes dans un rêve, puis dans un autre, puis dans encore un autre, et cela durant toute la journée. C'est lamentable. Les moines bouddhistes ont raison. Nous vivons dans un rêve. Pour mieux comprendre tout ceci, nous pourrions parler comme les Grecs, qui disaient que nous nous trouvons dans les quatre états de conscience. Ces quatre états de conscience s'appellent en res ainsi. L'état d'ekasia, l'état de pistis, dianoia et nous. Ekasia, pistis, dianoia et nous. L'état d'ekasia est le premier état de conscience. C'est celui que nous avons lorsque nous dormons dans notre lit, et que notre corps astral sort de notre corps physique pour aller dans le monde des rêves, dans la cinquième dimension, en y projetant tous nos désirs. Voilà l'état d'ekasia. L'état d'ekasia est donc l'état du sommeil de la conscience le plus courant dans le monde. Nous nous couchons, nous nous endormons, et voilà, nous sommes dans l'état d'ekasia. L'état d'ekasia est l'état du sommeil. Quand nous laissons notre corps physique reposer dans notre lit, pour qu'il puisse se régénérer, pour qu'il se revitalise et qu'il soit prêt pour les jours suivants, c'est un état de conscience courant que nous connaissons. L'état de conscience pistis, c'est lorsque notre corps physique est actif, mais que nous sommes toujours endormis. Lorsque nous continuons à avoir des rêves, à être endormis, l'état de pistis, c'est l'état de conscience qu'on appelle à tort état de vieille. Nous disons état de vieille, mais vieille signifie vigilance. Et la vieille n'est pas du tout un état de vigilance dans l'état dans lequel nous sommes tous. Nous sommes dans l'état de pistis lorsque notre corps physique est actif. Imaginez que nous vivons dans une maison qui a quatre étages et que nous nous déplaçons sur les mains au premier et au deuxième étage. Le premier étage s'appelle l'ekasia. Lorsque nous dormons tranquillement dans notre lit, et d'état de pistis, est le deuxième étage de la maison qui représente le corps physique actif, et que nous appelons à tort état de vieille. C'est-à-dire, lorsque nous sommes actifs avec notre corps physique. Ces rêves que nous avons dans l'état de conscience ekasya, bien, lorsque nous nous réveillons, lorsque notre corps physique entre en activité dans la matin, et que nous revenons dans notre corps physique, du corps astral, nous continuons à les projeter ces mêmes rêves dans notre vie active. C'est comme ces étoiles que nous voyons dans le ciel durant la nuit et qui disparaissent les jours. Elles sont toujours là, mais nous ne les voyons pas. Voilà l'état de Pistis. Lorsque notre corps physique est actif, nous pensons que nous sommes éveillés, mais nous continuons à rêver. Même si ces rêves ne se voient pas, on continue quand même à rêver. C'est l'état de Pistis. Nous passons donc de l'état de Cassia à l'état de Pistis. C'est-à-dire que nous nous réveillons, mais nous continuons de rêver. Nous continuons à projeter nos rêves. Nous continuons à être hypnotisés. Nous continuons à être comme des somnambules. Et lorsque vient la nuit, nous allons nous coucher. Nous nous endormons et nous entrons dans l'état de Cassia, mais c'est une autre forme de rêve. Ces deux états sont des états de rêve différents. Mais dans les deux, nous avons la conscience endormie. Dans le monde des rêves, nous pourrions faire beaucoup de choses, mais nous ne les faisons pas car nous avons la conscience endormie. Et c'est pareil lorsque nous sommes dans le monde physique. Voilà les deux états dans lesquels l'humanité se trouve actuellement. L'état de conscience, Dhyanoya, est le troisième état de conscience. Ce troisième état de conscience est le rappel de soi. Le rappel de soi, c'est être consciente de ce que nous sommes, de ce que nous faisons à chaque instant. Si nous mangeons, eh bien nous sommes en train de manger. Et toute notre conscience est là. On ne regarde pas la télévision, on ne lit pas le journal. Si nous mangeons, nous mangeons. C'est avoir notre conscience active dans notre nourriture. Voilà le troisième état de conscience. Si nous marchons, eh bien nous sommes là. Pourquoi, si nous sommes en train de marcher, nous pensons à tellement de bêtises? Si nous marchons, eh bien nous marchons, nous devons être là, complètes. C'est d'être conscient que nous sommes en train de marcher. Si nous sommes à l'école, eh bien soyons à l'école. Pas seulement notre corps physique, chers amis, mais notre conscience aussi. Attentif à ce que nous sommes en train d'étudier, parce que si nous allons à l'école, c'est pour étudier. Sinon, cela ne sert à rien. Il faut nous préparer, il faut savoir pourquoi nous avons cette matière à étudier. Pourquoi nous avons de l'algèbre, de la géométrie, de la chimie, de la philosophie, et à quoi nous servira tout cela. Il faut être conscient, attentif. Si nous sommes chez nous, pour nous occuper de notre maison, il faut être présent. Il faut faire la vaisselle, nettoyer, faire le ménage. Il faut ranger la maison. Si nous sommes au bureau, eh bien soyons au bureau et non pas autre part. Nous devons faire ce que nous faisons. Le rappel de soi, c'est être à chaque instant présente, être consciente de ce que nous faisons dans l'instant. Fais ce que tu fais. Si tu manges, mange. Si tu marches, marche. Si tu étudies, étudie. Nous sommes ici en train d'écouter une conférence. Pourquoi devrions-nous être autre part dans notre mental? Pourquoi devrions-nous être en train de comparer cet enseignement que nous recevons avec ces autres enseignements que nous avons lus dans un livret? Si nous faisons des comparaisons, c'est que nous sommes endormis, que notre conscience est endormie. Nous ne sommes pas en train d'écouter attentivement, en conscience. Nous nous écoutons nous-mêmes et nous n'apprenons rien en réalité. Nous devons donc faire ce que nous faisons. Donc, je le répète, première étape est Cassia. Le sommeil normal comme une écourade. Deuxième état, Pistis. L'état nommé à tort, état de vieille. Troisième état, Dhyanoya. L'état du rappel de soi. Être consciente et attentif et un rappel de soi. Un disciple demande à Bouddha, quelle différence y a-t-il entre un maître et un disciple? Le mot maître, pour un bouddhiste, a un sens différent. Un maître est, c'est un être illuminé. Un maître, c'est celui qui a appris à vivre. Un maître, c'est celui qui a dissous les défauts psychologiques. Il demande donc, quelle différence Y a-t-il entre un maître et un disciple? Et le maître Bouddha répondit. Ainsi comme une année est divisée par 12 mois, et les jours est divisé en heures, et les heures en minutes, et les minutes en secondes, et les secondes en fractions de secondes, le maître est celui qui vit en conscience dans chaque fraction de seconde. Voilà ce qu'est un maître. Eh bien, nous qui rêvons toute la journée et toute la nuit dans l'état d'acacia durant notre sommeil courant, en projetant beaucoup de rêves, puis dans l'état de pistis lorsque nous avons notre corps physique dans ce monde de trois dimensions, nous n'arrêtons pas aussi de rêver. Il faut trouver un troisième état de conscience qui serait bien meilleur. Il s'agit du réveil de notre conscience. L'état de nous est encore un état très différent. L'état de nous viendrait à être un état où l'état de conscience est continu. Cet initié, ce maître, cette personne qui a réussi à s'éveiller et qui vit chaque fraction de seconde de façon consciente, voilà l'état de nous. Ce sont donc les quatre états de conscience, les quatre états de conscience possibles. Mais nous ne sommes que dans l'état d'acacia et l'état de pistis. C'est-à-dire, dans le sommeil courant, en projetant nos rêves, et dans cet état nommé à tort, état de vieille, où nous projetons aussi nos rêves. La seule chose, la seule façon de nous éveiller est la mort de nos différents défauts, des types psychologiques que nous avons, comme nous l'ont montré les différentes mythologies du monde, les différents enseignements du monde. Toutes nous disent qu'il faut en finir avec tous nos défauts psychologiques. Ils ont eu des noms différents et ont été représentés de façon bien différente. Bien sûr, ce sont les démons rouges de Seth dans l'ancienne Égypte. Ils sont les seigneurs de Shivalva dans la culture maya. Ils sont l'hydre de Lerne, la méduse dans la mythologie grecque, Typhon et beaucoup d'autres que nous départ le monde. Ils représentent les moi psychologiques, l'ego, les moi-même, l'agrégat psychologique, les péchés capitaux. C'est lui qui maintient notre conscience prisonnière, enfermée. C'est ce moi qui amène notre conscience dans différents endroits et qui nous fait rêver. Quand on réveille sa conscience, c'est qu'on a détruit un agrégat psychologique. En détruisant un agrégat psychologique, on libère un pourcentage de vertus, de pouvoir, de sens, et c'est ainsi que l'on réveille sa conscience. Voilà la manière d'éveiller notre conscience. Il existe bien sûr plusieurs façons qui, dans leur ensemble, vont nous aider à éveiller notre conscience, et parmi ces méthodes que nous donnons ici dans l'Arnos, il existe la technique qui s'appelle la division de l'attention, qui nous permet d'apprendre à utiliser notre conscience. Il faut apprendre à utiliser cette toute petite partie de conscience que nous avons de libre. C'est comme si nous avions un patrimoine que nous ne connaissons pas, mais que nous avons et que nous n'utilisons pas. Voilà comment sont nos valeurs. Nous n'avons que 3% de conscience, de pouvoir, de dons. Mais nous ne les utilisons pas et cette technique de la division de l'attention va nous permettre de les utiliser peu à peu et de commencer à éveiller notre conscience, d'utiliser finalement les 3% de conscience libre que nous avons. Il faut commencer par sortir de ces rêves dans lesquels nous vivons, sortir de cet état léthargique dans lequel nous nous trouvons. La clé de la division de l'attention consiste simultanément à être attentif à 3 choses. Au sujet, à l'objet et au lieu. Ici, dans l'agnose, les autodiagnostics l'appellent la clé des sols. Bien sûr, cela ne se réfère pas aux notes de musique. Non. Nous l'appelons ainsi à cause de l'acronyme qui forme ces 3 mots. Sujet, objet, lieu. Sol. Soleil. En français. Mais en réalité, on l'appelle, ou le nom correct est la division de l'attention. La division de l'attention consiste à être attentif au même temps au sujet, c'est-à-dire à qui nous sommes. Qui sommes-nous? Nous devons être attentifs à qui nous sommes. Vous me direz, bien sûr que je sais qui je suis. C'est une question très bête, me direz-vous. Mais elle n'est pas si bête que cela, car nous ne savons pas si nous sommes en réalité. Et pour vous le démontrer, il suffit d'un exemple. On regarde la télévision, on regarde un film, une série romantique où l'héroïne souffre. Alors, nous ressentons une envie de pleurer aussi. Pourquoi entrons-nous dans un tel état de sentimentalisme? Eh bien, parce que l'on s'est oublié de soi-même. On se met à la place de cette héroïne qui souffre ou à la place du héros que l'on voit dans les films. On s'est oublié de soi-même. De qui nous sommes? Voilà quel est le sujet. On regarde un film de kung-fu, de karaté, d'action, et on ressort du cinéma en faisant des tas de gestes et n'ayant envie de s'inscrire dans une école d'arts martiaux pour apprendre cela. Nous nous sommes oubliés nous-mêmes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons oublié les sujets. Dans les sujets, nous devons être attentifs à notre mental. Nous devons être attentifs à la fenêtre de nos cinq sens, notre vue, notre odorat, notre gouttière, notre ouïe. Nous devons être attentifs à eux parce que toutes les choses de ce monde entrent à travers de ces cinq sens et arrivent dans notre mental. Et celui-ci, notre mental, réagit aux impacts de la vie extérieure. On oubliait tout cela, on oubliait qui nous sommes. Voilà donc tout ce qui concerne le sujet. Il faut donc être attentif au sujet. Il faut être attentif à qui nous sommes. L'objet. Que sommes-nous en train de faire? Mais bien sûr que je sais que je suis en train de faire, me direz-vous. Mais vraiment, savez-vous vraiment ce que vous êtes en train de faire? Très souvent, nous n'avons pas la conscience de ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi ratons-nous un arrêt d'autobus lorsque nous devions y descendre? Pourquoi devons-nous descendre et revenir sur nos pas à cause de cela? Parce que nous n'étions pas conscients d'être dans l'autobus et que nous devions descendre à cet arrêt. Nous n'avions pas conscience que l'on se déplaça à cet endroit-là. Nous n'étions pas conscients de ce que nous faisions à cet instant-là. Donc, l'objet est d'être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Voilà l'objet. Si nous marchons, eh bien nous marchons. La conscience devrait être dans ce que nous faisons. Ces enseignements ont été donnés à travers le monde à différentes périodes de l'histoire. Et nous les avons oubliés. Ces enseignements furent donnés dans le bouddhisme. Ces enseignements furent donnés dans le christianisme primitif. Ces enseignements furent donnés à l'époque des Aztèques, dans leur époque de l'âge d'or, chez les Mayas, les Incas, à l'Orient. C'est la philosophie de la momentanité, de vibrer l'instant, le présent, de vibrer chaque instant de notre vie. Voilà ce que veut dire savoir que l'on est en train de faire. Et le lieu, c'est d'être conscient de l'endroit où nous sommes. Cet endroit où nous travaillons tous les jours, ou cette école où nous sommes très souvent, être attentif à l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Voilà donc la division de l'attention. Le sujet, qui sommes-nous? L'objet, que sommes-nous en train de faire? Le lieu, où nous trouvons-nous? Si on utilise cette division de l'attention, sujet, objet et lieu, eh bien, nous allons éviter beaucoup d'accidents. Nous allons économiser une grande quantité d'énergie. Nous allons commencer à nous rendre compte de nos défauts de type psychologique que nous avons. Nous allons commencer à découvrir cet univers intérieur qui existe nous-mêmes. Si nous sommes étudiantes, nous allons commencer à mieux comprendre les cours. Tout va être bien plus facile. Nous allons travailler bien mieux. Nous allons avoir un comportement plus correct. Parce que nous allons commencer à diriger notre attention et nous-mêmes nous rendre compte qui de qui nous sommes, de ce que nous faisons et dans quel endroit nous nous trouvons. Le mental ne doit pas se poser la question « Qui suis-je ? » « Je suis un tel ? » Non. « Qui suis-je en train de faire ?» Répondre « Je suis en train de marcher ?» Non. « Où suis-je ?» Et répondre mentalement « Je me trouve dans tel endroit. » Non. Il ne s'agit pas de se poser des questions et d'y répondre mentalement, parce que celui qui se pose des questions et qui y répond serait le mental, et le mental est très lent pour faire ce travail. Le mental serait toujours en retard pour faire ce type de choses. Le mental est bien plus lent que les émotions. Alors, comment pourrions-nous observer une émotion avec le mental qui est bien plus lent que cette émotion que l'on ressent? La sexualité, chers amis, est immensément plus rapide que le mental. Comment pourrions-nous observer nos réactions de luxure avec un mental aussi lent? Non, nous devons activer la conscience. La conscience est cette faculté d'appréhension intérieure. Nous devons l'activer. Et pour cela, nous devons être conscients, nous devons être attentifs, imbibant la philosophie de la momentanité. Ressentir le « je suis en train de marcher », ressentir le « je suis en train de manger », ressentir, non penser, ressentir le « je suis en train d'étudier », ne pas nous le dire, mais ressentir le sentiment de « je suis en train de faire telle ou telle chose ». Voilà ce qu'est la division de l'attention. C'est ce qui va nous permettre de commencer à nous éveiller, parce que nous sentons, nous sommes là. Commencer à être moins endormi, à moins rêver, comme on a l'habitude de le faire normalement. Voilà de quoi il s'agit. C'est le but. L'objectif de la division de l'attention. Celui qui s'éveille dans le monde physique va s'éveiller partout. Celui qui s'éveille ici dans le monde physique va aussi s'éveiller dans le monde des rêves. Lorsqu'on a terminé toutes les activités de la journée, on se couche et on s'en va dans le monde des rêves. Notre âme avec notre corps astral, parce que nous possédons plusieurs corps, et que l'un d'eux est notre corps astral, nous nous projetons dans le monde de l'éternité. Avec ce corps astral, le monde de l'éternité, c'est la cinquième dimension. Alors, dans ce monde des rêves, il y a des temples de sagesse, il y a des maîtres, il y a des initiés, des devas, des anges. Nous pourrions y recevoir des enseignements transcendentaux. Nous pourrions mieux nous connaître nous-mêmes et aussi connaître l'univers entier. Mais nous devons tout d'abord nous éveiller ici et maintenant dans cet instant précis. Il faut savoir que les laps de temps que nous réussissons à nous éveiller ici dans le monde physique sera les mêmes laps de temps, période de temps où nous serons éveillés dans le monde astral, dans le monde des rêves. Ces sorties astrales qui ont été relatées comme appartenant à un monde occulte ne le sont pas autant. Nous sortons un corps astral toutes les nuits. Toutes les nuits. Ici, nous vivons de façon mécanique. Ici, nous vivons en état hypnotisé. Ici, dans le monde physique, nous vivons comme des somnambules. Dans le monde astral, dans le monde des rêves, nous faisons la même chose. Mais si nous nous éveillons ici, si nous commençons à tout faire de façon consciente, parlons du judo antique. Le judo antique, cela fait des milliards d'années, ne s'utilisait pas comme une défense personnelle. Non, le judo était une manière de se dominer soi-même, de dominer son mental, d'être consciente à chaque instant. De même avec la cérémonie du thé japonais. Cette cérémonie du thé japonais, si merveilleuse, où il fallait être consciente à chaque instant, dans chaque mouvement. Nous pouvons faire de même avec nos repas. Faire nos repas comme une cérémonie, complètement consciente, dans chaque mouvement, dans chaque une partie de nourriture que nous mangeons, que nous goûtons, chaque instant. Au travail que nous accomplissons pour gagner notre pain quotidien, il est divin, il est spirituel. Cela fait partie du travail intérieur que nous devons faire pour éveiller notre conscience, bien sûr. Il ne faut pas fuir le travail. De nombreuses personnes se disent, pourvu que je sois licencié, parce qu'ainsi je pourrais me dédier tous les jours à l'enseignement gnostique. Ou des petits jeunes se disent, pourvu que je puisse arrêter mes études pour avoir tout mon temps pour étudier l'enseignement gnostique. Tout le monde se trompe, et se trompe complètement, parce que réellement, le travail, lorsque nous travaillons, ou l'école, lorsque nous étudions, ou le travail à la maison, c'est quelque chose de divin. Les grands maîtres de la loge blanche, pardon, comme Bouddha, Quetzalcoatl, pardon, Hermès, Trismégiste, Fuji, et toutes les grandes maîtresses ont toujours travaillé. Ils ne passaient pas leur temps à méditer. Non, on peut remarquer sur leur visage les marques de beaucoup de travail qu'ils ont dû faire pour gagner leur vie. Il ne faut pas fuir. Il faut apprendre à vivre chaque instant, chaque moment de notre vie. Il n'est pas question de se retirer de tout cela et nous réfugier sur une île déserte, dans une caverne ou dans un monastère. Non, mes chers amis, il faut apprendre à vivre avec ce que nous savons. Il faut apprendre à vivre d'instant en instant. Et celui qui s'éveille ici s'éveillera aussi partout. Il deviendra un chercheur des grands mystères de la vie et de la mort, de l'âme et de l'esprit. En éveillant sa conscience, on pourrait faire des recherches sur toutes ces choses, devenir un chercheur du monde supérieur, du monde astral, où nous allons toutes les fois où nous endormons, lorsque nous nous endormons. Lorsque nous réveillons le matin, il est recommandé de ne pas bouger. Le matin, en se réveillant, parce qu'en bougeant, les valeurs bougent aussi. Et on perd tous les souvenirs de nos rêves. En se réveillant, il faut faire une rétrospection de tout ce dont on a rêvé. Ou de tout ce dont nous avons vécu dans le monde des rêves ou monde astral. Nous pouvons nous aider avec un mantra pour nous souvenir de nos rêves. Les mantras sont une sage combinaison de sons qui a le pouvoir de se répercuter dans le plan physique, mental et spirituel. Dans ce cas-là, ces mots sont Raom Gaom. On les prononce mentalement, et cela peut nous aider à mieux nous souvenir de nos rêves. Voilà ce que nous vous proposons comme travail pour l'éveil de la conscience. Avant d'aller endormir, on peut prendre un petit cahier ou un petit carnet pour écrire le nombre de fois où nous avons fait de la division de l'attention, où nous avons fait cette clé de sol inconscience avec la date du jour où nous l'avons faite. Combien de fois ai-je été consciente aujourd'hui? Parce qu'il est important de savoir si nous progressons avec cette technique de l'éveil ou pas. Voilà ce que nous devons faire. Nous allons essayer de le faire. Nous allons commencer avec ces instruments de la division de l'attention. D'accord? Bien. Dans notre pratique d'aujourd'hui. Eh bien, chers amis, il est très important de faire cette d'écrire, de garder ces expériences. La quantité des moments où nous avons été conscientes pendant les jours, la duration, les temps de chaque fois et l'amplitude et pénétration de cette expérience. Si nous faisons cet exercice, mes chers amis, tellement simple, mais si difficile à faire, d'être consciente, de ne pas laisser intervenir notre mental parce que le mental n'a pas aucune capacité pour le faire. D'être consciente de nous-mêmes, qui je suis, de notre objet, des objets autour de nous, de notre raison d'être, de ce que nous faisons, et de les lieux où nous sommes. En même temps, devenir consciente, l'intellect, le mental n'a pas la capacité de le faire. Si nous le faisons, et que nous n'oublions pas de le faire, alors nous réussirons à éveiller notre consciente. Il ne faut pas arrêter nos études, ni le travail, ni fuir la vie, ni la famille. Il ne faut rien arrêter de faire. Il faut faire tout ce dont nous avons l'habitude de faire. Mais, à partir d'aujourd'hui, le faire en conscience. Il faut être attentif à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Alors, il faut essayer d'appliquer cette clé. Et si nous le faisons, mes chers amis, alors nous réussirons à éveiller notre conscience dans ce monde physique. Et tout nous ira beaucoup mieux. Et nous nous éveillerons aussi dans le monde astral. Cette clé de la division de l'attention, nous pouvons la faire aussi avec la clé du discernement. C'est-à-dire, nous demander si nous nous trouvons dans le monde physique ou bien dans le monde astral, dans le monde des rêves. Vous me direz, évidemment, nous savons que nous sommes dans le monde physique. Ah oui? Posons-nous la question. Sommes-nous dans le monde physique ou dans le monde astral? Dans le monde physique, vous me répondrez. Comment le savez-vous? Puisque lorsque vous rêvez, vous croyez que vous êtes éveillé dans le monde physique, n'est-ce pas? Soudain, lorsque nous faisons un cauchemar, nous nous réveillons tous agités, n'est-ce pas? Ouf, heureusement que ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? On croyait pendant les cauchemars que l'on était réveillé. Alors, il faut se poser la question et devenir consciente. Suis-je dans le monde physique ou dans le monde astral? Il ne faut pas se répondre intellectuellement. Il faut simplement faire un petit saut en ayant l'intention de flotter. Si nous le faisons, très souvent, toutes les fois où nous voyons quelque chose d'étrange, nous allons le faire aussi dans les rêves, mais dans les rêves, nous allons flotter. Nous étions dans la 5e dimension. Nous pouvons faire une chose plus discrète, tirer sur un de nos doigts, avec l'intention de l'éloigner. Le corps astral dans lequel nous nous déplaçons dans le monde des rêves est très élastique, et si on le tire dans le monde astral, notre doigt va s'éloigner. Mais nous devons le faire aussi dans le monde physique, puisque nous répétions ces gestes dans le monde astral. Voilà, mes chers amis, voilà comment nous allons réussir à éveiller notre conscience. Nous allons donc ainsi commencer à marcher sur le chemin de la gnose vers ce grand enseignement de la sagesse. Cet enseignement que nous avons voulu vous donner dans cette occasion. Bien, mes amis, nous avons terminé cette conférence aujourd'hui. Nous allons vous recommander les derniers chapitres du livre Éducation fondamentale pour que vous l'étudiez. Il s'intitule La conscience. Et nous vous recommandons aussi d'étudier le livre L'éveil de l'homme. L'éveil de l'homme. Ces deux livres, vous les trouverez sur notre website www.samaelgnosis.net, dans la section des livres en français. Vous pourrez aussi les télécharger dans de quelques formats et nous vous recommandons cette lecture complémentaire pour ce que nous venons d'étudier dans cette conférence. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner. Ayez-vous un très bon week-end et à bientôt.